livre plein les oreilles. Salut à vous toutes et vous tous, c'est le balado des livres plein les oreilles qui commence, qui comme son nom l'indique, se voue tout entier aux livres audio qui paraissent que ce soit de ce côté-ci de l'Atlantique ou encore de l'autre côté en Europe, mais toujours en français. Je m'appelle Clotilde Sey, j'ai la chance de réaliser cela pour vous. C'est produit par Canal M et d'ailleurs je suis en ce moment même dans le studio de Canal M avec l'ami Mathieu Tessier qui m'appuie pour la mise en onde de ce balado-là. Alors, cette semaine, je vais un peu penser à notre belle jeunesse qui aime aussi écouter des livres. Il va y avoir une nouveauté chez Nara, donc de chez nous, nara.audio. À un moment donné, j'avais dit dans une autre émission .com, mais non, ça ne marche pas .com, c'est vraiment nara.audio. Ça s'appelle « Courir les mouches à feu » d'André Poulain et c'est maintenant... ça fait partie du catalogue des livres qui s'écoutent. Sur ma table de chevet, Kafka. Et c'est une première pour moi et pour ce balado qui va diffuser du Kafka. La métamorphose. Il y aura aussi une histoire de géant qui va m'amener au royaume de l'enfance et de Ken Follett. Et puis, retour sur un livre dont j'ai déjà parlé. Mais il est plus juste de dire que je l'ai évoqué. Et cette fois-ci, j'ai demandé à Gérald de Cousineau de l'écouter pour nous. Il est aussi tombé sous le charme de l'homme qui lisait des livres. Qui nous transporte dans les rues de Gaza. Nous irons avec lui. On va finir ça avec des nouveautés, dont les enregistrements tonitruants et multivoix de Lucky Luke, Lucky Luke, de ce côté-ci de l'Atlantique, bien sûr. Et enfin, le polar du jour, nouveauté signée Audiolib dans le cadre de la série Les Enquêtes du département 5. Je ne sais pas, j'avais toujours entendu que, quand j'ai Lucky Luke, j'ai entendu des gens qui se moquaient de moi. Alors donc, ce sont les gens qui se moquaient dont il faut que je me moque. D'accord, je le saurai. Alors, Lucky Luke, c'est pour la fin de l'émission. Courir les mouches à feu pour le moment, d'André Poulain, lu par Hugolin Chevrette, édité par Bayard Canada Livre. C'est un livre jeunesse, mais c'est pas niaiseux, mettons. C'est pas du gnagnin, c'est pas du cucu. On est avec un garçon qui se demande pourquoi sa maman ne répond pas à ses lettres et pourquoi est-ce que ses amis rigolent alors que lui voit tout en noir. Il est fatigué, écœuré, dégoûté de lui-même. Il se dit, est-ce que je vais m'habituer ou abandonner? Et donc, il décide à un moment donné, Thomas, de prendre un emploi d'été et il va aller devenir cueilleur de fraises. Et ça devient très rapidement une torture. Voici un extrait de « Courir les mouches à feu » d'André Poulain, lu par Hugolin Chevrette.
Avant de nous embaucher, Samuel et moi, la propriétaire de la ferme nous a avertis. Être cueilleur, c'est difficile. La plupart des Québécois lâchent au bout de quelques jours. C'est pour ça que j'embauche des travailleurs du Guatemala. On est très motivés et on n'est pas des lâcheurs, déclare Samuel d'un ton convaincu. Menteur. En fin de journée, j'ai les doigts tachés de jus de fraise, les genoux en compote et mal à la tête. J'ai aussi un nœud dans l'estomac, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que cette job de cueilleur sera la pire décision de ma vie? Maringouin énervant. En allant chercher ma bouteille d'eau en haut du rang, je m'enfarge dans un panier rempli par la cueilleuse du Guatemala. Première journée, première gaffe. Devant ses fraises renversées, la fille s'exclame « Qué tonto! » Je tente de ramasser mon dégât. Elle me chasse du revers de la main comme si j'étais un maringouin, puis marmonne encore « Tonto ». Je ne sais pas ce qu'elle dit, mais je sais que ce n'est pas un compliment. Je trouve que cette fille s'impatiente pour pas grand-chose. Elle ne peut pas dire un seul mot de français, mais moi, je ne la traite pas comme un moustique énervant. En plus, je ne comprends pas ce qu'elle est venue faire au Québec, si loin de chez elle, même si son affreux bandeau jaune citron lui donne des airs de grand-mère. Elle semble bien trop jeune pour être une cueilleuse professionnelle. À la pause du midi, je cherche la traduction sur mon téléphone. Tonto, ça veut dire imbécile en espagnol. OK. Je sais déjà que cette fille ne deviendra pas ma meilleure amie. Balai lumineux. Quand mon père a décidé de partir en voilier pour l'été, il a insisté pour que j'habite chez Sam. Il y a beaucoup de blagues et de rires chez les Bernier, tellement que, des fois, ça me déprime. Parce que je ne peux pas blaguer et rigoler avec mes parents. Ce soir, pour ne plus entendre la joie bruyante des Bernier, je me sauve dans le boisé derrière la maison. Quand j'arrive à l'étang, les wawarons se taisent. Assis dans l'herbe humide, dos contre le tronc d'un érable, je fais la statue. Si je reste totalement immobile, peut-être que les grenouilles vont recommencer à coasser. Le soleil trace un ruban rose à la surface de l'eau. Yeux fermés, j'essaie de penser à quelque chose de joyeux. Je n'y arrive pas. Quand je rouvre les yeux, je les vois tout de suite. Scintillantes et vacillantes, les mouches à feu dansent un ballet lumineux au-dessus de ma tête. Devant cette galaxie miniature, je n'ai pas de mots. C'est juste trop beau. Je suis fasciné par la chorégraphie silencieuse des flamèches. Est-ce que les lucioles s'agacent ou se pourchassent? Soudain, une mouche à feu se pose sur ma main, si légère que je sens à peine le chatouillement de ses pattes délicates. Si fragile.
Pas mal du tout, puis c'est fait chez nous, faut en parler du livre audio, oui, il s'en fait encore. Pas beaucoup, mais il y en a. « Courir les mouches à feu » de André Poulain, lu par Hugolin Chevrette. Sur ma table de chevet, oh là, on n'est plus du tout pour la jeunesse, on s'en va dans le monde des adultes avec Franz Kafka. Je n'avais jamais lu de Kafka de ma vie, j'ai dit à un moment donné, il faut quand même que je me déniaise, et en même temps, je vais aller voir ce qu'il y a en audio. Et j'ai trouvé notamment cette petite plaquette, la métamorphose, parce que c'est pas gros comme plaquette, mais c'est lourd de sang. Sans Titi, par exemple, cette métamorphose qui nous amène dans la chambre de Grégor, qui est un individu, le genre d'individu qui se fond dans la masse, famille tranquille, sans histoire, très respectueux de son boulot, le Grégor, qui se réveille un jour dans le corps d'une grosse mouche. Plus vraisemblablement, d'ailleurs, un cafard. Hein? Alors, dès les premières pages, j'ai lu, parce que là, moi, je n'en suis qu'aux premières pages et je me sens exactement comme ça. Une auditrice ou une lectrice a écrit « Je me suis sentie oppressée comme si c'était moi qui avait été transformée ». Je comprenais avec une acuité extraordinaire à quelle pression Grégor était soumis de la part de sa famille, de son employeur et de lui-même. Jamais encore un récit fantastique ne m'avait donné autant d'émotions en si peu de pages, car oui, nous parlons bien ici d'un récit fantastique. C'est le même, qui s'appelle Gwen 21, c'est comme ça qu'il signe dans Pabellio, qui nous dit qu'au-delà de sa forme, ce roman, proche de la nouvelle par son style, ouvre plusieurs portes de réflexion sur des sujets de premier ordre comme la dépendance, le travail, les rapports sociaux et la famille. Bien des questions sont soulevées, mais le lecteur est seul pour trouver les réponses, pour trouver toutes ses réponses à lui. Dans la revue Elle, on avait écrit le 11 février 2025 une nouvelle profondément angoissante et oppressante qui résume à elle seule la puissance de l'écriture. C'est là-dedans que je suis plongée. Je vous propose d'écouter un extrait de la version audio. Il y en a au moins 5 versions différentes en français si vous allez dans n'importe quel catalogue, si vous tapez la métamorphose Kafka ou même la métamorphose tout court, vous allez voir, il y en a plusieurs. Celle-ci, elle est lue par Guy Deleuvre.
Un matin, au sortir d'un sommeil agité, Grégor Samsa se réveilla pour découvrir qu'il s'était changé, là, dans son lit, en un gigantesque insecte. Il était étendu sur le dos, dur et bombé comme une carapace. En relevant légèrement la tête, il aperçut son ventre brun, arrondi, découpé en segments rigides en forme d'arceau, sur lequel la couette peinait à tenir. Ses nombreuses pattes minuscules, au point de paraître dérisoires comparées au reste de son corps, s'agitaient dans le vide pendant qu'il les observait. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» se dit-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une véritable chambre humaine, un peu étroite, certes, mais parfaitement ordinaire, restait silencieuse entre les quatre murs familiers. Sur la table reposait un assortiment d'échantillons de tissus. Grégor était représentant de commerce. Et juste au-dessus, il avait accroché une image découpée, récemment dans un magazine illustré, encadrée dans un joli cadre doré. On y voyait une dame coiffée d'un chapeau et d'un boa de fourrure. Assise bien à droite, levant vers le spectateur un lourd manchot en fourrure qui lui couvrait tout l'avant-bras. Grégor se tourna ensuite vers la fenêtre. Le temps pluvieux, on entendait les gouttes frapper la vitre. Lui donna un coup au moral. « Et si je dormais encore un peu pour oublier toutes ces bêtises » pensa-t-il. Mais c'était impossible. Il avait l'habitude de dormir sur le côté droit, et dans son état actuel, il lui était totalement impossible de se mettre dans cette position. Il avait beau tenter de se jeter avec élan sur son flanc droit, il retombait toujours sur son dos. Il réessaya des centaines de fois, les yeux fermés pour ne pas voir ses petites pattes vaciller, et ne renonça que lorsqu'une douleur sourde, inconnue jusque-là, commença à se faire sentir. « Dieu !» pensa-t-il. « Quelle vie j'ai choisie ! Toujours sur les routes, jour après jour, faire des affaires demande bien plus d'énergie que gérer son travail depuis chez soi. Et puis, il y a l'agitation des voyages, la vigilance constante pour les correspondances de train, les repas médiocres et pris n'importe quand, le contact permanent avec des gens différents. On ne connaît jamais vraiment personne. On ne peut se lier avec personne. Que tout cela aille au diable !» Il sentit une légère démangeaison sur son ventre, il glissa lentement sur le dos et se rapprocha du haut du lit pour mieux relever la tête. Il découvrit que l'endroit qui le démangeait était couvert de petites taches blanches, sans qu'il comprenne d'où elles venaient. Quand il tenta de toucher la zone avec l'une de ses pattes, il la retira aussitôt. Ce simple contact lui donna un frisson. Alors il reprit sa position initiale. « Se lever si tôt tous les jours, pensa-t-il. Ça rend complètement idiot. Il faut dormir assez. Les autres voyageurs de commerce mènent une vie bien plus confortable. Chaque fois que je retourne à la pension, le matin pour mettre mes commandos propres, je les vois, ces messieurs, tranquillement assis en train de prendre leur petit déjeuner. Si j'essayais d'en faire autant avec mon patron, il me jetterait dehors sur le champ. Peut-être que ce serait la meilleure chose, qui sait. Si je ne pensais pas à mes parents, j'aurais démissionné depuis longtemps. Je me serais présenté devant mon patron et je lui aurais dit ce que j'ai sur le cœur sans rien retenir. Il en tomberait de son bureau. Quelle manie d'ailleurs que de rester perché là-haut derrière un bureau et de parler à ses employés de si haut, surtout quand il faut se pencher près de lui à cause de sa surdité. Enfin, rien n'est encore perdu. Une fois que j'aurai réuni de quoi rembourser la dette que mes parents ont envers lui, encore 5 ou 6 ans, j'imagine, c'est exactement ce que je ferai. Ce sera le grand jour. Mais pour l'instant, il faut que je me lève. Mon train part à 5 heures.
Un magnifique texte, et certainement aussi d'ailleurs un très bon lecteur, mais il y a des mariages qui ne collent pas. Ça fait partie de la magie du casting en livre audio, quand une voix colle avec un texte. Là, c'est peut-être pas... C'est un petit peu raconté comme un conte d'Andersen. On est dans Kafka, quoi. C'est pas... J'aurais vu plus un Podalides, peut-être, ou quelqu'un comme ça. Mais c'est pas grave. Le texte est ce qu'il est. Et puis-je vous avoir donné l'envie de lire, de vous replonger dans du Kafka comme je suis en train de le faire en ce moment. Figurez-vous qu'on a découvert un papyrus vieux de 3300 ans qui parle de géants. Bon, ça c'est ce qu'en disent les chercheurs. Mais il y en a d'autres qui disent que c'est une affaire qui a... Ça ressemble à un piège monté de toutes pièces. Oui, évidemment, un papyrus ancien, une formule saisissante. Et puis, ben voilà, ressuscité la vieille fascination pour les géants. Le papyrus porte le nom d'Anastasie Ier. C'est un texte égyptien du XIIIe siècle avant notre ère, conservé au British Museum et qui a été récemment brandi comme une preuve de l'existence d'une race de colosses en Canaan. L'argument frappe l'imaginaire, mais Le résultat n'est pas très solide, c'est du moins ce qu'en pensent quelques spécialistes qui prétendent que si on s'en tient au texte, bah, finalement il y a un scribe égyptien qui a voulu peindre dans une scène de tension des adversaires, oui, impressionnants par leur stature. Mais enfin, de là à dire que c'était des géants comparables aux figures de l'Ancien Testament, on en est loin. En revanche, c'est un papyrus qui nous montre comment l'Égypte du Nouvel Empire regardait la vie, allez, on va dire ça comme ça, les routes étroites, les reliefs, les embuscades possibles, les groupes, la peur de l'erreur, toujours on se cache, on n'ose pas dire, on n'ose pas faire, on n'ose pas marcher. Bref, ça, ce n'est pas rien. En ce qui concerne les géants, c'était pour moi l'occasion d'aller voir ce qui s'écrit, ce qu'il y a dans les livres audio au sujet des géants. Et j'ai trouvé, entre autres, pour les enfants, de Roald Dahl, Le bon gros géant, lu par Christine Delaroche et Daniel Prévost. En voici un extrait.
La silhouette était maintenant beaucoup plus proche. Et Sophie la distinguait plus nettement. En l'observant avec attention, elle finit par conclure qu'il devait s'agir d'une sorte de personne. De toute évidence, ce n'était pas un être humain, mais, sans nul doute, c'était une personne, et une grande personne, ou plutôt, une personne géante. Sophie scruta avec insistance la rue embrumée que la lune éclairait. Le géant, si c'en était bien un, était vêtu d'une longue cape noire. Dans une main, il tenait ce qui semblait une très longue et très fine trompette. De l'autre main, il portait une grande valise. Le géant s'était à présent arrêté devant la maison de Monsieur et Madame Goucher. Les Goucher possédaient un commerce de primeur situé au centre de la Grand-Rue et toute la famille vivait au-dessus de la boutique. Sophie savait que les deux enfants gouchers avaient une chambre au premier étage qui donnait sur la rue. L'œil collé à la fenêtre, le géant regardait à l'intérieur de la pièce où dormaient Michael et Jane Goucher. De l'autre côté de la rue, Sophie l'observait en retenant son souffle. Elle vit le géant faire un pas en arrière et poser sa valise sur le trottoir. Il se pencha, l'ouvrit et y prit quelque chose qui ressemblait à un bocal, un de ces bocaux carrés munis d'un couvercle rond. Il dévissa le couvercle et versa le contenu du bocal dans sa longue trompette. Sophie s'était mise à trembler en le regardant faire. Elle vit le géant se redresser, puis glisser le pavillon de la trompette par la fenêtre ouverte de la pièce où dormaient les enfants gouchés. Le géant prit alors une profonde inspiration et il souffla dans sa trompette. Il n'en sortit aucun bruit. Mais il était clair qu'à présent, le contenu du bocal avait été projeté par la trompette dans la chambre des enfants gouchés. De quoi pouvait-il bien s'agir? Le géant retira sa trompette de la fenêtre et se pencha pour ramasser la valise. En même temps, il tourna la tête et jeta un coup d'œil de l'autre côté de la rue. Dans la clarté de la lune, Sophie aperçut l'espace d'un instant. Une énorme tête, longue, pâle et ridée, dotée d'oreilles gigantesques. Il avait un nez en lame de couteau et au-dessus, deux yeux brillants qui lançaient des éclairs. Deux yeux dont le regard tomba droit sur Sophie. Et ce regard semblait féroce, diabolique. Sophie eut un haut-le-corps et s'éloigna de la fenêtre en reculant d'un bond. Puis elle traversa en courant le dortoir, sauta dans son lit et se cacha sous la couverture. Là, tremblant de tous ses membres, elle se recroquevilla et resta sans bouger, comme une souris terrée dans son trou.
Mm-hmm. Oui, extrait de Le bon gros géant de Roald Dahl, lu par Christine Delaroche. C'est d'elle dont on entendait la voix. C'est d'ailleurs très bien lu pour nos enfants. On va rester chez les géants. Moi, quand on me dit géant, je pense tout de suite à Gulliver. Eh bien, ça tombe bien. J'ai trouvé un extrait de Gulliver chez les géants. Il est sur les... chez les géants. Il est assez bref, mais sympathique quand même et surtout. Rien que pour le plaisir d'écouter la voix de Marlène Jobert, voici un extrait.
Et pousser le navire tantôt vers l'est, tantôt vers l'ouest. L'équipage et même le capitaine ne savaient plus du tout où ils se trouvaient. Chacun observait l'horizon avec autant d'inquiétude que d'espoir lorsqu'enfin on cria « Terre ! Terre !» Quelques matelots sautèrent aussitôt dans une chaloupe pour se rendre sur cette île inconnue et Gulliver, impatient, partit avec eux. Tandis que les autres restaient près du rivage, il préféra explorer l'intérieur des terres. Très vite, il s'arrêta stupéfait. Une immense prairie s'étalait devant lui, mais l'herbe qui y poussait était étrangement haute, aussi haute que des arbres. Il revint sur la plage pour en parler à ses compagnons, mais ne les trouva plus. Il aperçut seulement leur chaloupe au loin, sur la mer. Il se demandait ce qui avait bien pu les faire fuir ainsi lorsqu'il vit un homme, grand comme une maison, venir dans sa direction. Un seul pas du géant en valait 10 des siens. Gulliver, paniqué, recula, recula, mais il se trouva bientôt coincé contre un rocher. La chaussure du géant, aussi grosse qu'une barque, allait l'écraser. Gulliver hurla de terreur. Oh ! Le géant l'entendit, s'arrêta net.
Et l'extrait aussi. Il va falloir que vous alliez chercher pour vous ou pour vos petits cet extraordinaire livre audio Gulliver chez les géants. C'est pas long du tout, hein. Ça dure 15 minutes. Tiens, voilà une bonne idée pour endormir les enfants. Après, ils vont pas dormir de la nuit. Lu par Marlène Jobert. Et ça, apparemment, ça a été écrit, c'est-à-dire que c'est une version, elle, qu'elle a réécrite pour nos plus jeunes. Et puis, qui dit géant, j'ai de suite pensé aussi, bien sûr, à la chute des géants qui n'ont rien à voir avec les géants dont nous parlions là, mais les géants dans le sens de ces grands pays qui, à un moment donné, suite à une guerre, finissent par se casser la margoulette. Regardez ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors, sous la plume de Ken Follett, les géants, ce sont les grandes puissances en 1911 qui vivent leurs derniers instants d'insouciance parce que la guerre va déferler sur le monde. 5 familles américaines, russes, allemandes, anglaises et galloises vont se croiser, s'aimer, se déchirer au rythme des bouleversements de l'histoire. La Première Guerre mondiale et la Révolution russe. Alors, moi, je vous propose dans l'extrait qui va suivre d'aller du côté des Anglais dans la famille de Billy. Billy qui s'apprête à descendre pour la première fois dans les mines. On est très, très loin du mode de vie des riches et l'amertume est au bord de toutes les lèvres. Ce passage qui est au tout début du livre en témoigne. Extrait de La chute des géants. C'est le tome 1 de la série Le siècle de Ken Follett.
Écoutez ça, lança Dan. Il n'aurait jamais acheté le mail, une feuille de droite. Il lui arrivait d'en rapporter un numéro que quelqu'un avait laissé traîner et d'en lire des articles tout haut d'une voix méprisante, persiflant la stupidité et la mauvaise foi de la classe au pouvoir. Lady Diana Manners a été critiquée pour avoir porté la même robe à 2 bals différents. La Benjamine du duc de Rutland a remporté le concours du « plus beau costume féminin » au bal du Savoy pour sa robe à corsage bustier sur une jupe à panier. Concours doté d'un prix de 250 guinées. Il baissa son journal pour préciser. Ce qui fait au moins 5 ans de ton salaire, Billy Boy. Il reprit sa lecture. Mais elle s'est attirée les foudres des connaisseurs en portant la même tenue à la réception donnée par Lord Winterton et F. E. Smith au Claridge's. Il ne faut pas abuser des bonnes choses, a-t-on observé. Il leva les yeux au-dessus de son journal. « Tu devrais changer de robe, ma'am. Tu ne voudrais tout de même pas t'attirer les foudres des connaisseurs. » Cela ne fit pas rire, ma'am. Elle portait une vieille robe de laine brune, aux coudes rapiécés, décolorée aux aisselles. « Si j'avais 250 guinées, j'aurais plus d'allure que Lady Diana de Crotte !» marmonna-t-elle, non sans amertume. « C'est sûr, » approuva Grumper. « Cara a toujours été jolie fille, comme sa mère. » Le prénom de Mam était Cara. Grumper se tourna vers Billy. « Ta grand-mère était italienne. Elle s'appelait Maria Ferrone. » Billy le savait, mais Grumper aimait répéter les mêmes histoires. « C'est d'elle que ta mère tient ses cheveux noirs brillants et ses beaux yeux sombres. Ta sœur aussi. Ta grand-mère était la plus jolie fille de Cardiff. Hé, c'est moi qui l'ai eue. » Son visage se rembrunit. « C'était le bon temps, » dit-il tout bas. Dai esquissa une grimace de réprobation. Ses propos évoquaient les plaisirs de la chair. Mais le compliment fit plaisir à Mam, qui sourit en posant son petit déjeuner devant son père. « Oh oui, » renchérit-elle. « On passait pour des beautés, mes sœurs et moi. On pourrait leur montrer à tous ces ducs ce que c'est qu'une jolie fille si on avait l'argent pour s'acheter de la soie et des dentelles. » Billy fut surpris. Il n'avait jamais pensé que sa mère puisse être belle. Da lut un autre article. Dans le cadre des préparatifs du couronnement, Buckingham Palace a publié un recueil d'instructions de 212 pages. Il reposa le journal. « Raconte-leur ça à la mine tout à l'heure, Billy. Les gars seront soulagés d'apprendre qu'on n'a rien laissé au hasard. » La famille royale n'intéressait pas beaucoup Billy. Ce qu'il aimait, c'était les récits d'aventures que le Mail publiait régulièrement. Des histoires d'anciens élèves d'école privée, de rudes joueurs de rugby qui capturaient de fourbes espions allemands. À en croire le journal, la Grande-Bretagne en était infestée. Mais il ne semblait pas y en avoir à Aberowen, ce qui était vraiment dommage. Billy se leva. « Je descends la rue, » annonça-t-il. Il se dirigea vers la porte d'entrée et sortit. Descendre la rue était un euphémisme familial pour dire qu'on allait au cabinet, lesquels se trouvaient à mi-parcours de Wellington Row. On avait bâti une petite cahute de briques couverte d'un toit en tôle ondulée au-dessus d'un trou profondément creusé dans le sol. La cabane était divisée en deux compartiments, un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Chaque compartiment possédait un double siège, si bien qu'on allait aux toilettes deux par deux.
Partie du balado des livres plein les oreilles. Je vous ai quitté il y a quoi, 1 minute 30, 2 minutes peut-être, avec un extrait de La chute des géants, le tome 1 du siècle 1 de Ken Follett, lu par Vincent Violette. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça. Et puis, c'était pas du tout en Angleterre que j'étais. On était à Cardiff et donc c'est au Pays de Galles. Alors, je voulais me reprendre. Alors, je suis de retour, mais je ne suis pas seule parce que Gérald Cousineau vient de se joindre à moi. Salut Gérald!
Salut Clotilde.
Gérald, c'est un livre dont tu vas nous parler. Moi, je l'avais déjà évoqué, comme ça arrive, mais j'ai été très contente que tu me le proposes parce que quand j'avais entendu l'extrait qu'on va d'ailleurs entendre, qui est un petit peu plus long que d'habitude parce oui. que je trouvais que ça valait la peine, je le trouve absolument magnifique, surtout que c'est lu par l'auteur. Rachid Benzine ou Benzine, je ne sais pas comment le prononcer, oui. peu importe. Mais donc je te laisse nous le présenter, parce que je suis ravie que tu l'aies choisi aujourd'hui.
Rachid Benzine, c'est un écrivain d'abord que j'aime beaucoup. Depuis ma toute première lecture, toute première écoute, je l'aime beaucoup. Donc c'est un monsieur qui est né en 1971 au Maroc. Oui. Il a fait pas mal de choses. Il fait pas mal de choses. Hein. Romancier, dramaturge, islamologue, politologue, professeur. Et il a écrit donc des romans et des essais, particulièrement sur le Coran. On dit que c'est de lui, on dit que c'est un j'ai du mal à dire ce mot-là, un islamologue modéré, tolérant.
OK, ça, ça d'accord.
Mais les romans, il y a une particularité, la première à laquelle je pense, c'est qu'ils sont courts, très courts. En termes d'écoute, ça fait souvent moins de 2 heures. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas lire ou écouter Rachid Benzine ou Benzine, je ne sais pas vraiment moi non plus comment on prononce. D'ailleurs, j'ai entendu ce monsieur dans YouTube, il a une bonne voix et on aimerait bien l'avoir comme professeur.
Ah oui.
Donc, quelques romans intéressants, quelques essais que je n'ai pas lus, je l'avoue. Mais celui dont je parle aujourd'hui, L'homme qui lisait des livres, c'est son tout dernier, paru l'an dernier chez Julliard, donc 2025. Ça fait 123 pages, un peu moins de 2 heures d'écoute. Alors, nous sommes à Gaza. C'est un endroit qui est devenu célèbre, hein, malheureusement, hein, pour de mauvaises raisons. Là.
Oui. Bon.
Donc, nous sommes à Gaza en 2014. Il y a là un jeune photographe français qui s'appelle Julien. Eh bien, il va se promener dans les ruines de Gaza, parce que déjà en 2014, Gaza était en partie dévastée. Donc, il va se promener dans les ruines, et là, il va rencontrer un libraire. Et là, ça me fait sourire, parce qu'on n'arrête pas dans le lit de dire un vieux libraire, un vieillard. Or, selon lui, il a peut-être 60, 70 ans. Alors, j'ai tiqué un peu, moi qui ai dépassé cet âge-là.
Oui, je peux vous comprendre.
Mais je me suis dit que c'est vrai que le libraire, par contre, a traversé des problèmes. En fait, il a vécu une vie que je n'ai pas vécue. Donc, il rencontre ce libraire et le libraire va finir par lui raconter son histoire. Mais avant d'aller plus loin, votre extrait sonore parle très bien du décor.
Oh.
Et il faut bien l'écouter parce que ça commence rudement.
C'est remarquable. Et c'est la voix de Rachid Benzine. Ça va être un petit peu plus long que d'habitude, mais hein, c'est délicieux. On écoute ça.
Oui.
On repeint une porte ici. On nettoie une vitrine là. Comme si chaque petit geste de réparation ou d'entretien pouvait conjurer le mauvais sort. Gaza est une ville en réécriture permanente. Chacun y va de son inspiration, de ses points de suspension. Tous redoutent l'instant de ce geste qui ne leur appartiendrait plus, le point final. Des piles de vêtements, des chaussures éparpillées, des produits de première nécessité, tout ça rangé dans un désordre méthodique. Le propriétaire, assis derrière un comptoir en bois, manipule son inventaire comme un archiviste, chaque objet dans un coin précis. Il ne regarde plus les pauvres types qui fouillent dans son tas de fringues. Le klaxon des vieilles voitures, bruit strident, longue plainte, le bruit métallique des charrettes poussées sur les pavés irréguliers, tandis que les voix des marchands et les passants s'élèvent, éraillées, parfois excédées, souvent chaleureuses. Au détour d'une nouvelle rue, c'est l'odeur du sel et de la brise ramenée par le vent. Soudain, tu te trouves dans l'un des quartiers martyrisés, et c'est alors l'enfer craché à la surface. Une décharge à ciel ouvert, tout ce que la guerre vomit, détruit, ensevelit, réduit à néant. Des façades éclatées, éventrées comme des carcasses de bêtes crevées. Les entrailles de béton pendent, tordues, répandues sur les trottoirs. Les maisons ne sont plus que cages thoraciques fracassées, comme si elles avaient implosé en 1000 morceaux. Des balcons encastrés dans le bâtiment d'en face, tels des serpents morts, des bouts de câbles pendouillent misérablement, des canalisations se vident sur les façades, yeux crevés des fenêtres, trop béants qui vous regardent sans rien voir, tout semble hurler, hurler sans raison. Les trottoirs sont une mer de gravats, de bouts de béton pulvérisés, de poutres brisées comme si un géant avait écrasé la ville sous ses pieds. Les voitures, ou ce qu'il en reste, sont brûlées, calcinées, enchevêtrées dans les ruines, telles des bateaux échoués. Des drapeaux déchiquetés témoignent d'une attente bafouée, un peu de rouge, un peu de vert, accrochés au hasard lambeaux de chair pendant. Des graffitis désespérés agonisent sur les murs effrités. Tout ça n'a plus de sens. C'est un cimetière où même les ombres semblent perdues. À chaque coin de rue, quelque chose attire le regard. Ici, une porte bleue restée intacte, là un réverbère plié. Plus loin, un vélo abandonné, posé contre un bout de mur qui n'existe plus. Tout est là, figé dans une logique de l'absurde, où chaque élément inventorié a perdu sa fonction, son utilité, sa raison d'être. Tu passes devant un bâtiment étripé dont les étages paraissent s'être dérobés les uns sous les autres. Les cloisons démolies, ce sont des intérieurs ouverts à tout vent, la découpe offerte aux passants d'une vie volée. Un canapé renversé. Un rideau flotte encore un peu au gré des caprices de l'air. Un cadre brisé sur le sol. La photo d'un aïeul en qui fille défie le temps. Les trottoirs sont obstrués par un amoncellement disparate. Des blocs de béton, des éclats de verre, une chaise en plastique aux pieds fondus, un seau rouillé rempli de gravats, des jouets d'enfants, une peluche éventrée. Les arbres, lorsqu'ils ne sont pas déracinés, sont mutilés, les branches arrachées. Un avertissement, une énième menace. Et pourtant, on continue de vivre. Un théâtre de misère et de folie. Un bal grotesque où les vivants ne sont plus tout à fait vivants, mais pas encore tout à fait morts. Ils se traînent dans les ruines comme des fantômes, avec l'air de ceux qui ont tout vu, tout perdu, et qui n'attendent plus rien, sinon la fin. Mais ça continue, et il faut bien vivre en attendant. Alors les gosses courent et rient encore et toujours. Ils savent déjà tout de la mort. Une vieille balle dégonflée et ils slalom entre les décombres. C'est un terrain de jeu comme un autre, plus riche même. On y trouve parfois des trésors. Les adultes, eux, s'entassent dans les coins. Ils s'occupent, ou du moins ils essaient. Les voiles des femmes s'agitent à peine. Ils se mêlent à la poussière et aux cendres. On peut encore voir des familles s'asseoir devant ce qu'il reste de leur maison. Comme si rien n'avait changé.
Ouf, puis quelle écriture. On est... Voyez-vous, oui. ça pour moi, si je peux me permettre, Gérald, ça pour moi, c'est la quintessence du livre audio lorsqu'il est bien fait et bien lu.
Oui.
C'est-à-dire, il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas de... Mais on est là, on est dans les ruines, on est avec cette ville en réécriture permanente, c'est magnifique.
C'est drôle parce que dans l'extrait qu'on a entendu, il y a des phrases que j'avais copiées mot à mot dans mes notes parce que c'est trop beau, il faut que j'en parle.
Ah ben, moi de même, si ça se trouve, tout ce que la guerre vomit.
Oui, c'est... parce que quand il parle de Gaza, qui est en réécriture permanente, c'est beau. Et quand il parle du théâtre de misère et de folie, où les vivants ne sont plus tout à fait vivants, mais pas encore morts, c'est dur, mais en même temps, c'est ça. On voit très bien Gaza. Or, je rappelle que le récit commence en 2014, donc avant la tragédie de 2023 qui va accélérer la tragédie. Donc,
imaginons.
Ce jeune photographe qui s'appelle Julien, il rencontre le libraire et là, ils vont fraterniser autour d'une tasse de thé et il va lui raconter son histoire. Mais son histoire, elle remonte à 1948, au moment où les Arabes sont chassés de leur village par l'armée israélienne. Et c'est là, et c'est à partir de là que tout commence. C'est là que tout commence. Alors, la famille de Nabil va, j'ai bien dit, Nabil, c'est le libraire. Mm-hmm. La famille de Nabil va passer d'un camp à l'autre. Et là, c'est bien sûr le fameux exode, la pauvreté, la violence, parce qu'ils se font tirer dessus pour des riens. Incroyable, c'est incroyable. Et pourtant, Benzine n'a rien inventé. Et d'ailleurs, il va jusqu'à donner des dates exactes au jour près. Pas parce que lui a connu ça, pas du tout. Et on ne sait pas si ce libraire est une figure connue ou a vraiment existé, on ne le sait pas. Mais les dates sont là, vraiment, c'est ancré dans l'histoire. Donc, on se dit, oui, ça a vraiment dû se passer comme ça. Alors, il va raconter son histoire de l'Exode jusqu'à aujourd'hui. Et puis, avec tout, il n'y a pas que du mauvais, évidemment, parce qu'à un moment donné, il va perdre sa femme, il va perdre son fils lors d'une intifada. Il va être jeté en prison parce qu'il a osé vouloir se venger. Et en prison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire, mais il va lire beaucoup. Et là, il y a plein de références, et pas des moindres. Victor Hugo, Fernando Pessoa, William Shakespeare, d'ailleurs, il y a aussi Malraux. Parce que, curieusement, le tout premier livre que le libraire va tendre au photographe, c'est quoi? La condition humaine de Malraux. Mais le symbole est assez fort, quand même, là. Ouais. Donc, il va lui tendre des livres, tout ça, mais c'est en prison qu'il va lire beaucoup. Et après, en sortant de prison, là, sa femme, malheureusement, est morte dans un bombardement, il va ouvrir sa librairie. Et là, il décide qu'il ne va rien ajouter à la laideur du monde. Et comment il va faire? Grâce aux livres, évidemment. Donc, c'est vraiment les livres qui vont être sa planche de salut. Mmh. Il dit que sans eux, non. C'est la survie du monde. Et pour lui, les livres ne sont pas une façon de fuir le réel, mais au contraire, une façon de l'habiter pleinement. Et ça, j'étais content d'entendre ça parce qu'on parle souvent de littérature d'évasion. Et vrai, il y en a une certaine. On lit un livre et on l'oublie tout de suite. Non, là, il lui parle des livres qui l'ont marqué, pour lui, des livres, ça l'a vraiment marqué. Et pour lui, ces livres-là aident à vivre. C'est vraiment, comme on disait avant, un supplément d'âme. Mais c'est tout à fait ça qui se passe avec lui. Bon, il arrive la tragédie du 7 octobre 2023. Le jeune photographe revient. Là, je n'en dirai pas plus. Mais je vous donne cette image très forte d'un enfant qui va ramasser dans les ruines quelques pages d'un livre. Il va se sauver en riant. Il va se sauver avec son trésor. Et je trouve cette image tellement belle. Oui. Parce que pourquoi? Mais la vie continue. Oui. Et dans toute cette tragédie, il y a souvent dans le récit les rires des enfants qui vont courir entre les ruines. Ils vont jouer à des jeux incroyables. Ils vont se trouver des jouets. Alors que les parents sont évidemment beaucoup plus sérieux. Oui. Mais cette sérénité du vieillage, mais le mot entre guillemets, là, du libraire, contrairement aux autres qui sont là, ils doivent survivre jour après jour. Mais lui, il offre une image de sérénité qui fait du bien. Et c'est ça qui va frapper le photographe. Mmh. Comment cet homme peut garder cette sérénité-là alors que les maisons sont démolies à côté de lui? Mais c'est ça qui est beau. C'est que la vie, finalement, est la plus forte encore. Mmh. La vie va continuer malgré tout. Mmh. Et quand je parlais des autres romans, je vous suggère très fortement de faire un tour. Par exemple, « Ainsi parlait ma mère ». C'est d'une beauté.
Ah, oui,
c'est tout court encore. Mais une vieille, la mère du narrateur est très vieille, très âgée. Elle va mourir bientôt. Et qu'est-ce qu'elle demande à son fils? Elle est aveugle. Elle lui demande régulièrement de lui lire une page du roman de Balzac, La peau de chagrin.
Ah oui.
Seulement ce roman-là. Mais c'est magnifique, cette histoire. Je pense au roman Les silences des pères. Très beau. Je pense au voyage au bout de l'enfance où on parle des islamistes. C'est magnifique. C'est très court, mais vraiment un auteur à découvrir. Vraiment, si vous ne connaissez pas Rachid Benzine, ça vaut le détour, croyez-moi. Et quelle lecture il a faite tout à l'heure de son, livre.
C'est beau, hein?
Je ne savais pas qu'il avait lu lui-même.
Oui, si. C'est absolument magnifique. C'est ce que je disais. C'est presque un ton neutre, mais comme je déteste ça, non, c'est pas vrai, parce que c'est toujours chargé. Et là, c'est chargé de l'émotion pure et c'est chargé de toutes ces images-là. Oui. Et il n'a pas besoin d'être larmoyant.
Non, pas du tout, c'est bouleversant. Larmoyant, voilà.
Bah écoutez, Gérald, écoute, parce que c'est vrai qu'un coup on se dit tu, un coup on se dit vous, mais c'est pas grave ça. Je t'en remercie beaucoup parce que moi, le peu que j'en avais parlé, je ne l'ai pas encore écouté, mais ça va venir et j'avais hâte d'avoir ton appréciation. Comme l'a dit, je ne sais plus quel auditeur, à un moment donné, qui a sur Babelio, j'ai beaucoup aimé, il a écrit « Lire à Gaza, c'est résister et garder l'irréductibilité de sa condition humaine ». Tiens, d'ailleurs, on revient sur Malraux. Encore un,
Nabil, juste ajouter un petit mot. Nabil va dire quelque part que le lecteur est un prisonnier consentant, attaché à l'illusion que chaque page tournée va le libérer, le libérera.
Ah.
Mais c'est ça, il s'attache à cette illusion-là et n'en démord pas.
C'est magnifique. Alors, je rappelle, pour les gens qui viendraient seulement peut-être de se joindre à nous, que l'ami Gérald Cousineau, aveugle aujourd'hui complètement, qui lit par les oreilles énormément de bouquins, vient à cette émission une fois ou deux semaines, c'est ça, et vient nous parler donc de livres qu'il écoute. Et aujourd'hui, c'était une formidable suggestion que l'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine, on a vérifié, c'est bien comme ça qu'il semble le prononcer lui-même. C'est une nouveauté, c'est sorti en septembre 2020.
Oui,
c'est ça.
Oui.
Ça sent le prix quelque part, là. Je ne sais pas, il me semble que c'est vraiment assez exceptionnel. Ruez-vous sur ce livre et sur tous les livres dont nous a parlé du même auteur, Gérald, à l'instant. Ainsi parlait ma mère, notamment. Pour paraphraser ce qui est dit dans l'extrait, on trouve dans ce bouquin et dans les ruines de Gaza et peut-être dans les ruines de nos bibliothèques de véritables petits trésors. Alors allons-y.
Tout à fait.
Merci Gérald, infiniment. Et puis, on se retrouve tout bientôt, je le souhaite ardemment. OK.
Bonne lecture.
Merci, je t'embrasse. Bye.
Au revoir.
allez, on va changer complètement d'univers. On va tomber dans un univers franchement pas humoristique à se taper sur les cuisses, mais quand même un univers souriant qui est celui de Lucky Luke. Figurez-vous que chez Audible, on a eu la bonne idée de sortir un coffret. C'est sorti le 11 mars. Donc, c'est vraiment tout nouveau, tout chaud. Un coffret de 5 tomes des histoires de Lucky Luke, rassemblées donc tout ici. Parmi ces histoires-là, il y a Des rails sur la prairie, il y a Calamity Jane, il y a La Diligence, Un cowboy sous pression et Ma Dalton, moi qui est un de mes préférés, parce que je trouve que la mère des Dalton, elle est absolument irrésistible et je suis contente qu'ils aient porté leur choix sur ce livre-là, je veux dire cet épisode-là de la vie de Lucky Luke. Alors c'est un multivoix, je ne vais pas vous citez tous les gens qui sont là-dedans, parce que de toute façon, vous ne les connaissez pas, mais je les félicite, je les remercie. Ils ont fait de l'excellent travail. C'est une magnifique réalisation. Voici donc un extrait de Ma Dalton, de ce coffret des 5 tomes de Lucky Luke en audio chez Audible.
Une plaine quelque part dans l'ouest américain, brûlée par ce soleil intense qui fait trembloter l'horizon. Une poignée de crotales se tortille sur cette terre sèche et vide, seulement dérangée par un chariot au loin et les sabots d'un cheval. Voilà donc ce vieux Clint qui transporte la paye des employés de cuivre de Cactus Junction comme toutes les semaines. Mais cette fois-ci, cachés derrière un rocher, deux bandits, armes au poing, attendent de récolter le magot. Ah, il n'y a qu'un homme sur ce cheval pour escorter ce chariot, se réjouissent-ils, un foulard cachant leur sourire mauvais. Oui, mais cet homme, c'est Lucky Luke.
Oh, hey.
À peine le temps de bouger leurs mains et déjà les bandits sont désarmés. Lucky Luke est comme ça. Il dégaine. Deux balles percutent les coltes des bandits. Il rengaine l'arme encore fumante avant même que les pistolets ennemis ne touchent terre. Il est vif, Lucky Luke.
Ça fait la 43e embuscade et je ne compte pas les Indiens. Mon cher Lucky Luke, sans toi, je ne serais jamais arrivé à Cactus Junction en un morceau. Je crois que la profession de chauffeur-livreur va m'épuiser. Oh, tiens, une flèche dans mon chapeau. Je n'ai pas passé loin, celle-là.
Ouais, ces voyages sont monotones. Je ne suis pas fâché d'arriver.
La rue principale de Cactus Junction est déjà traversée de part et d'autre par des chariots et des cavaliers qui quittent la ville, à la recherche d'un nouveau filon pour faire fortune. Seule une vieille dame semble se détacher de ce bazar. Cabas de course à la main, petit châle gris sur les épaules et coiffe pudique. La petite dame semble bien frêle parmi cette horde d'hommes.
Je peux vous aider, madame ?
Avec plaisir, jeune homme. Je vais à la boucherie en face.
Prenez mon bras, je vous en prie.
Ah, avec toute cette circulation, on aura bientôt besoin d'un scout indien pour traverser la rue. De mon temps, il y avait des coyotes pour vous barrer le chemin.
Et voilà, madame.
Merci, jeune homme. Bonne journée. Voyons, où l'ai-je mis ? Ah, voici. Oh les mains, tout le monde !
La vieille brandit un gros pistolet d'une main étonnamment ferme et tient en joue le boucher, le garçon boucher et une cliente. Lucky Luke bondit dans la boucherie. La vieille n'a pas l'air de rigoler. Mais les trois victimes sont plutôt détendues. Le boucher est même un brin joueur.
Non, non, Lucky Luke, ne vous inquiétez pas. Alors, Ma Dalton, qu'est-ce que ce sera pour aujourd'hui ?
Un bon steak, et n'oublie pas du mot pour mon chat ou je te refroidis comme ta viande.
Voilà, voilà.
Et butin en poche, Ma Dalton se dirige vers la boutique suivante.
Oh les mains, tout le monde !
Eh ben, je n'aurais jamais cru que les Dalton avaient une mère.
C'est un des personnages pittoresques de notre petite ville. Nous y tenons beaucoup. Ma Dalton vit seule dans une petite maison aux environs de Cactus Junction. Toute la ville se cotise pour la nourrir. Comme elle veut faire honneur à son nom et qu'elle ne veut pas avoir l'impression de vivre de la charité publique, elle fait semblant d'attaquer les commerçants. D'ailleurs, le revolver de Ma Dalton n'est qu'une vieille pétoire vide et rouillée.
Vous êtes de braves gens par ici. Je crois que Jolly Jumper et moi allons prolonger notre séjour.
Vous êtes les bienvenus.
C'est bien fait, hein? C'est vraiment bien fait. Alors, ça dure 5 heures de temps, 5 épisodes, je vous l'ai dit. C'est disponible chez Audible qui a produit cette série. Et c'est fait avec des voix humaines, bien sûr, sinon je ne vous en parlerai pas. On va finir ça avec un polar. Les morts ne chantent pas, les enquêtes du département 5, c'est le tome 11 de Jussi Adler-Olsen, qui est un Danois, lui. On est là avec un flic qui s'appelle Karl, qui prend sa retraite du département 5, mais après, le département vivote et à la demande de ce Karl-là, on reprend une affaire qui avait été abandonnée, qui lève le voile sur des faits qui se seraient déroulés à la fin des années 80 dans une prestigieuse école réputée pour son cœur de jeunes garçons. C'est un thriller intense qui nous parle de rêves brisés, d'innocence et de cruauté. Le géant du polar, donc danois, Jussi Adler-Olsen, a repris la plume pour nous offrir cette nouvelle enquête du département 5, dont voici un extrait. Ça s'appelle « Les morts ne chantent pas ».
Vous croyez qu'il va cafeter ? Demanda Tommy. Sans doute parce qu'il cherchait toujours à épater les plus grands, c'était lui qui leur avait donné l'idée de pisser sur Jacob. Maintenant, il avait l'air beaucoup moins fier. Il n'a pas intérêt, rétorqua Berg en roulant des yeux. C'était un beau garçon, gâté par la nature et par ses parents, qui, jusqu'à l'arrivée de Jacob, pouvait se vanter d'avoir la plus jolie voix de tout le cœur. Mais Berg et Conrad avaient 13 ans à présent, et leur voix pouvait muer à tout moment. « Je dirai rien. » Jacob fut surpris d'avoir été capable de parler tant il avait la bouche sèche. Conrad tourna la tête et s'approcha de lui d'un pas de hyène. « Bah ! Qu'est-ce qui pue comme ça ?» Il se posta à côté de Jacob, se pencha sur lui, les narines frémissantes. « Ça sent la pisse, non ?» Berg s'approcha également, la bouche tordue par un sourire mauvais. Il regarda le misérable tas de vêtements de Jacob. « T'as raison, ça pue vraiment. On peut pas ramener un porc pareil au dortoir, Vang. »« On va le laver un peu et ensuite je lui prêterai mon pull, » dit Vang en retirant son pull islandais. « Bonne idée !» Berg pointa son index sur lui et claqua des doigts. Il fit le tour de l'arbre et Jacob sentit que Berg lui libérait les poignets. Puis, Conrad le saisit par l'avant-bras comme si Jacob avait eu l'intention de s'enfuir, comme s'il avait pu s'enfuir. Ses pieds étaient transformés en blocs de glace, ses jambes en coton, et il tenait à peine debout quand Conrad le traîna vers le ponton. Berg le rejoignit et se plaça dans le dos de Jacob. « Écoute-moi bien, l'enfant prodige !» lui dit-il, la bouche collée contre son oreille. Il faisait au moins une tête de plus que lui, et il gronda à voix basse. « Maintenant tu vas sauter à l'eau !» Jacob n'osa pas se retourner. « Je sais pas nager !» dit-il. La panique se propagea du creux de son estomac jusqu'à l'aine. Il se mit à faire pipi sans pouvoir se retenir. « Mais il est dégueulasse !» s'exclama Conrad en faisant semblant d'avoir envie de vomir. « T'as aucune manière !» dit-il ensuite en le tirant par le bras jusqu'au bord de l'eau. « Hé, vous êtes dingue ou quoi ?» Vang regardait la scène avec des yeux écarquillés. « C'est pas ce que j'ai voulu dire. Le lac a au moins 2 mètres de profondeur. Il a pas pied !» Jacob contemplait l'eau sombre. Vang avait raison. On ne pouvait pas voir le fond, surtout dans le noir. Peut-être n'était-ce même pas un lac, mais un marécage. Et il n'y avait rien de plus traître qu'un marécage. Même un adulte pouvait être entraîné au fond par la fange. Tommy arriva en courant derrière eux, et Jacob vit quelque chose de bleu traverser l'air et atterrir dans l'eau à 2 ou 3 mètres du ponton.
Oh mince, maintenant va falloir que t'ailles repêcher ton pyjama, dit Berg avec un regard de loup. Allez, t'as pas envie de rentrer à la colo?
Je vous dis que je sais pas nager.
Jacob tapa du pied sur les planches du ponton et son pied lui fit affreusement mal. Allez, va chercher, dit Berg en poussant doucement Jacob qui perdit l'équilibre. Conrad le prit par les bras, Berg par les jambes et Jacob se sentit soulevé de terre.
On leur donnerait le bon Dieu sans confession quand ils chantent. Mais à l'extérieur, c'est plus pareil. Voilà, c'est avec cet extrait que je vais vous laisser pour cette semaine. Merci beaucoup à Mathieu Tessier de m'avoir accompagné. Je m'appelle Clotilde Seil. Je vous présentais ce balado des livres plein les oreilles. Et pour ceux qui n'étaient pas là, le dernier extrait qu'on vient d'entendre est tiré d'un livre audio qui vient de sortir le 4 mars donc de cette année. Les morts ne chantent pas. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, portez-vous bien.